Bonjour, donc je suis Mélanie Pavie, je suis cinéaste et également doctorante dans un programme un peu particulier qui est un programme de doctorat pratique à PSL à la FEMIS et à l'École Normale Supérieure de Paris. Et je vais essayer de vous... En fait, je vais vous lire un récit d'une expérience que je mène depuis à peu près 3 ans dans une petite ville qui se situe à 50 km de la centrale nucléaire de Fukushima et qui a la particularité d'avoir été contaminée, mais on va dire pas suffisamment pour que la population soit évacuée. Donc les gens n'ont jamais quitté les lieux. Et donc je mène un travail depuis 3 ans là-bas que je vais essayer de vous transmettre à travers un récit. Puisqu'une des questions que je me pose par rapport à cette catastrophe, c'est comment la catastrophe, comment il est possible de raconter, de construire les récits des souvenirs avec la catastrophe. Comment la catastrophe s'y intègre et qu'est-ce qu'elle produit à la façon même de raconter les choses en termes de souvenirs. Voilà. Alors, le jeune Muto-san se tient devant moi, son regard clair planté droit dans l'œil de la caméra. Il est habillé comme je l'avais spécifié dans mon appel à participation de couleur claire. Un sweatshirt gris, un pantalon de jean bleu, des chaussettes blanches. Il est plus grand que la plupart des gens de la région. Il a une 30aine d'années et s'exprime avec un mélange subtil de douceur et d'assurance. Je travaille dans l'agriculture avec mon père et ma mère, commence-t-il. Et en plus de l'agriculture, on possède une pension et un restaurant. Avant la catastrophe, je vivais à Tokyo et je n'avais pas trop d'intérêt pour ma région d'origine. Quand il y a eu la catastrophe, j'ai bien vu que la génération de mon père avait réagi de façon très honorable. Il n'avait pas pensé à prendre la fuite, mais plutôt à comment s'adapter à la crise. Et ça m'a fait me sentir très fière de vivre dans cette région. Et ça m'a fait réfléchir à ce que je pouvais faire ici, à Towa. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse passer ce que je savais aux générations futures. Muto-san s'arrête. Il observe la minute de silence convenue entre nous. Il se tient bien droit, les bras le long du corps, une main cachée dans l'autre. Il bouge très peu. Sa bouche, légèrement pincée, lui donne un air un peu gêné ou du moins pensif. Gaspard, interprète et preneur de son avec lequel je travaille, debout à sa droite, a gardé le micro tendu dans sa direction. Tête baissée, il observe scrupuleusement le vue-mètre de son enregistreur. Nous sommes tous les trois silencieux, immobiles, comme suspendus dans ce décor incongru. Derrière Muto-san, un grand drap noir de 6 mètres sur 4 est accroché par 2 pinces à un fond télescopique. Il couvre tout l'arrière-plan, depuis le plafond jusqu'au sol, pour s'arrêter quelques centimètres au pied de ma caméra. Au-dessus de lui, 2 ampoules puissantes filtrent à travers des abat-jours boules sur lesquelles un film plastique noir a été scotché pour en canaliser les rayons. Nous avons installé ce studio avec Gaspard il y a 2 jours, dans cette partie de la grange transformée depuis peu par M. Ono en appartement pour son fils, Mizuki-kun. L'année dernière, cet endroit n'existait pas encore, et nous nous étions installés dans une autre partie de la ferme, un grand hangar réservé au stockage des légumes et au séchage des shiitake que M. Ono cultivait avant la catastrophe et leur contamination radioactive. L'année dernière, le hangar était vide. C'est coupé. Gaspard lève les yeux vers moi et répète « coupé », puis coupe l'enregistreur. La posture de Muto-san se relâche, je quitte mon poste derrière la caméra pour avancer vers eux, me pliant en deux à l'attention de Muto-san en le remerciant dans un japonais rudimentaire. Je me tourne vers Gaspard. Alors, c'était comment ? Je comprends très peu le japonais, mais depuis ma première expérience de tournage au Japon en 2010, j'ai appris à porter attention à d'autres signes que transmettent en dehors des mots les gens que je filme. Le mouvement de leur corps dans l'espace, le débit de leurs paroles, leur silence, leur regard. Et j'ai appris à faire confiance à l'impression que me laissent ces prises malgré l'incertitude. Gaspard me traduit ce premier monologue. Pendant qu'il retranscrit le récit avec une précision qui ne cesse au fil du tournage de m'impressionner, je regarde Muto-san en lui signifiant par des petits sourires que son récit me plaît. Cette première prise pose bien les marques de ce dont il m'avait parlé quelque temps avant. Ses parents, l'auberge, le restaurant, le fait qu'il avait quitté Towa pour Tokyo, que la catastrophe l'y avait ramené et qu'elle lui avait permis de voir autrement son pays natal. Le manque d'intérêt qu'il a au départ pour sa région et la projection dans le futur par laquelle il termine son récit m'intéressent aussi. Mais la description reste pour le moment très factuelle. Muto-san s'en tient au grand mouvement, à l'informatif, alors que j'aimerais connaître ses impressions, sa perception personnelle des choses. Je demande à Gaspard de bien vouloir traduire. Est-ce que Muto-san pourrait maintenant faire appel à ses souvenirs? Qu'aimait-il faire lorsqu'il était petit à Towa? Quelle était la première chose qu'il avait vue en arrivant à Tokyo? Se souvenait-il de la première chose qui avait changé dans son quotidien depuis la catastrophe? Après une courte conversation, Gaspard traduit mes indications et ma demande de reprendre le récit. Depuis le début? Demande Muto-san. Oui, s'il vous plaît. La réalisatrice utilisera les récits entiers sans les couper. Est-ce que vous pourriez reprendre depuis le début avec une minute de silence avant et une minute de silence après votre récit? Très bien. Répond Muto-san qui se remet en place à l'extérieur, à gauche de la scène noire sur laquelle il vient de composer son premier récit. Il réfléchit quelques secondes, puis se tient prêt. Ça tourne, répond Gaspard. Je fais un signe de la main à Muto-san pour lui indiquer le départ. Il entre sur le tapis, se tourne face à la caméra, s'avance et s'arrête environ un mètre devant moi, les yeux plantés dans l'objectif, silencieux et concentré. La première fois que je suis venue à Towa, il y a 2 ans, nous avions fait route en fin de journée. L'image qui m'est restée de ce trajet entre chien et loup est d'avoir serpenté à travers un village abandonné dont les anciennes rizières étaient recouvertes de montagnes de sacs de déchets. D'avoir, à la sortie du village, traversé un tunnel et immédiatement débouché dans la vallée de Towa. Je constaterai au cours de mes prochains séjours que j'avais condensé les espaces et que la ville était en réalité une bonne 20aine de minutes avant le tunnel. Mais cette opposition si forte entre les deux lieux, entre la ville de Hitate en plein chantier de décontamination et la vallée de Towa, visuellement quasiment inchangée, avait fait son travail dans ma mémoire, qui avait accentué les contrastes en fabriquant une topographie nouvelle et en les accolant. Nous avions garé la voiture dans la cour d'une petite ferme. Monsieur et Madame Ono, ainsi que la grand-mère, nous attendaient autour du kotatsu. C'est une petite table avec une couverture chauffante dans laquelle on s'installe, parce que le reste de la maison n'est pas chauffé en hiver. L'anthropologue Sophie Houdard, qui dirige également ma thèse, m'avait proposé de la suivre dans ce curieux repérage. Nous arrivions sur un terrain où elle travaillait déjà depuis 2 ans et sur lequel, disait-elle, ses outils de description habituels butaient. Elle avait décidé d'organiser ce qu'elle appelait une balade, à laquelle elle avait convié un groupe d'artistes et de scientifiques de sa connaissance, et nous étions venus en amont pour la préparer. Towamachi, petite ville de la circonscription de Nihonmatsu, préfecture de Fukushima, est située à quelques 50 km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, à l'intérieur des terres. Elle est entourée de Ayama, Koatayama et Kibuchotayama, 3 montagnes qui ont fait de sa vallée une zone faiblement contaminée par les retombées radioactives. Suffisamment pour devoir sacrifier toutes les récoltes les premières années, mais pas assez, par exemple, pour que la population soit évacuée. Comme le raconte Sophie, les habitants se sont d'abord équipés de compteurs GGR et ont commencé à mesurer, à noter, à quadriller. Ils ont tenté de rationaliser le comportement de ces entités à travers l'observation de taux de radioactivité lus sur leurs instruments de mesure. Mais ils se sont aperçus que la mesure changeait, qu'elle variait en fonction de la distance au sol à laquelle elle était prise, qu'une averse la faisait migrer du haut de la colline au bas de la rivière, que dans une même rizière, un spot pouvait être important quand le reste de la rizière restait indétectable. Ces taches de léopard, comme les ont surnommées les scientifiques, se retrouvent à toute échelle, celle de l'archipel comme celle microscopique du grain de riz. Une région proche de la centrale peut avoir été épargnée, alors qu'une autre à plusieurs kilomètres fortement contaminée. La tige d'un brin de riz peut être contaminée, tandis que le grain, lui, reste intouché. Lorsque je traverse pour la première fois ces paysages, dans le petit van Honda de M. Ono, qui a décidé, comme entrée en matière, de nous amener ce matin-là au temple de Kohata, de là-haut, vous pourrez voir toute la vallée, avait-il précisé. Je découvre une campagne japonaise typique, celle que je fantasmais de l'avoir tant vue au cinéma. Et plus je suis face à cette douceur bucolique, plus j'ai le cœur serré. De loin, j'imaginais la fin du monde, la catastrophe nucléaire, la zone. Mais ici, je ne vois rien, je ne ressens rien, je ne peux que savoir, pressentir ou imaginer. Comme dans une vision mystique, il me semble regarder ce paysage à travers un écran de suspicion qui me rend la réalité étrange, subtilement déplacée et insensiblement dangereuse. Je pense au docteur Chris Kelvin lorsqu'il revient chez lui après son voyage au bord de la station Solaris, dans le film d'André Tarkovsky. Rien n'a changé, excepté qu'en s'approchant de sa maison, alors qu'il regarde par la fenêtre, il voit la pluie qui était tombée le jour de son départ, plusieurs années auparavant, se déverser cette fois à l'intérieur de son salon. Il voit cette scène à travers l'écran de la vitre, bloqué à l'extérieur, témoin d'un présent irréversiblement passé, pétrifié dans une nostalgie inconsolable. C'est de ce sentiment qu'est né mon projet. En 2012, moins d'un an après la grande catastrophe de l'Est du Japon, je suis en résidence artistique à Kyoto pour la réalisation de mon précédent film « Cendres ». L'atmosphère est lourde. Des éléments vitaux comme l'eau et l'air revêtent un caractère de dangerosité et de toxicité auquel je ne les avais jamais associés. Chaque jour, la presse relaye la situation dramatique d'hommes et de femmes condamnés à l'exil dans leur propre pays, séparés de leur terre natale par une barrière incompréhensible, tracée en fonction de la quantité de microsieverts au mètre carré. La possibilité d'une disparition fulgurante de notre monde, et tout aussi anxiogène celle de sa contamination à grande échelle, m'apparaît pour la première fois envisageable. Un sentiment de nostalgie visqueuse envahit mon quotidien, une nostalgie du présent qui me fait percevoir le monde qui m'entoure comme s'il s'agissait d'un monde déjà disparu. Je suis paralysée par ce qui m'apparaît comme un signe de la fin. Et j'ai besoin d'aller voir à Fukushima comment font les gens avec la disparition d'une partie de leur monde. C'est une des raisons pour lesquelles Sophie m'a proposé de l'accompagner dans ce projet de balade, et je l'ai suivi jusqu'ici. Au bout de quelques jours passés dans la ferme, je parle à M. Ono de cette idée volontairement floue de filmer des récits monologues des habitants de Towa dans lesquels ils puissent raconter une anecdote, un souvenir, un geste, une histoire représentative de leur rapport personnel et physique à leur territoire natal. Je ne veux pas aborder frontalement la catastrophe, mais plutôt accumuler des récits personnels des lieux, récolter des histoires dans lesquelles le rapport à un paysage familier, à un paysage natal, est confronté à la fois à une perte et à une présence nouvelle depuis la contamination radioactive. Monsieur Ono se prête à l'exercice le premier, suivent sa maman et quelques collègues agriculteurs. En prévision de mon retour cette année, nous affichons un appel à participation à la coopérative agricole du village. Le recrutement ne se fait pas facilement et M. Ono travaille dur pour me trouver des candidats. Ce n'est pas la question qui ne les intéresse pas, mais les habitants de Towa sont des gens très timides, avait-il dit pour me rassurer. Mais il me demande de préciser. Est-ce que je veux des jeunes, des vieux, des femmes? Je n'avais pas réfléchi à la question, mais je sens qu'il faut lui donner des directives claires. L'année passée, j'avais surtout enregistré des récits d'hommes relativement âgés. Cette année, je demande donc des jeunes et des femmes. Et c'est ainsi qu'est arrivé le fils de M. Muto, lui-même filmé l'année passée, le jeune Muto-san. Depuis que je suis petit, avait-il repris, mon père et ma mère cultivent des namekos, ce sont des champignons. En voyant tout le travail fourni par mes parents, je pensais petit que l'agriculture c'était difficile, et je n'avais pas l'intention de prendre la relève. Quand il m'a fallu choisir une formation pour faire un métier, j'ai choisi la cuisine. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai rejoint une école de cuisine où j'ai appris à préparer des plats. Et ensuite, j'ai passé quelques temps à Tokyo à me perfectionner. J'ai passé un an à Tokyo et finalement, venant d'ici, je n'étais pas vraiment dans mon élément en ville. Du coup, j'ai décidé de rentrer à Towa et d'ouvrir un restaurant. Tout ça s'est passé il y a 12 ans. J'ai ouvert un restaurant et j'y travaillais tout en m'occupant de l'exploitation agricole de mon père. Mais bien que j'y sois en permanence, je n'avais pas plus d'intérêt que ça pour la région. C'était juste mon lieu de vie et de travail. Quand il y a eu la catastrophe, j'ai vu comment mon père et les gens de sa région y avaient répondu. Et loin de s'enfuir, ils ont protégé la région et j'ai compris les efforts qu'ils avaient faits pour la construire. Et c'est cette catastrophe qui m'a fait comprendre que je ne devais pas, dans mon restaurant, juste nourrir les gens qui y venaient, mais aussi présenter et exprimer à travers ma cuisine la culture et les traditions qui sont les nôtres. Et c'est donc cette catastrophe qui a fait changer ma position et mon point de vue sur ma cuisine et ma région. Muto-san s'arrête à nouveau pour une minute de silence. Depuis que j'ai commencé ce travail, je m'aperçois qu'en proposant aux récitants de se focaliser sur une action particulière, un moment ou un geste, la teneur de leur récit se modifie. En se projetant dans ce que leur corps a fait, ils parviennent à caractériser plus finement leurs sensations, leurs expériences. Le récit se construit peu à peu dans la répétition des mêmes mots, dans leurs contradictions parfois, et dans le dépliage progressif des situations. Mon projet ne consiste pas à obtenir des témoignages sur la grande catastrophe de l'Est du Japon. Ce qui m'intéresse et que je viens chercher auprès des habitants de Towa, c'est la manière dont ils continuent à faire récit malgré le choc. Ce dispositif presque théâtral propose un espace et un temps dans lequel performer une histoire. Et ce que je veux, c'est la filmer à l'œuvre, afin d'y déceler les constructions subtiles qui permettront d'intégrer la catastrophe dans la représentation préexistante du pays natal. En japonais, il y a une notion, le furusato, qui désigne tout à la fois le pays natal et la nostalgie qu'implique le fait d'en être séparé. Ou plutôt, cette notion a peu à peu signifié tout cela ensemble, mais au départ, elle désigne les ruines d'une ancienne capitale abandonnée. Les premières villes japonaises sont des constructions nomades que l'on transplante, après la mort de l'empereur. Le décès du monarque implique, selon la religion Shinto, une souillure pour l'empire entier. Il faut donc détruire toute la ville pour la reconstruire plus loin. Ceci a eu lieu plus de 12 fois entre 600 et 794, date à laquelle fut construite et stabilisée pour plusieurs siècles, la cité de Heian-kyō, actuelle Kyoto. Ce sont les élites de l'époque de Heian, de nombreuses fois déplacées avec la cour, qui, pour chanter dans leur poésie la nostalgie des anciennes capitales délaissées, formèrent le terme Furusato. Par la suite, comme le note le géographe Augustin Berck, le terme Furusato a pris exclusivement le sens de lieu, maison ou village où l'on a vécu, que l'on a laissé derrière soi et où l'on revient éventuellement. Le mot implique la séparation, la peine qui en résulte, mais aussi en puissance l'apaisement du retour. De la même manière que pour la notion de nostalgie en Europe, l'idée de Furusato résulte des conséquences d'une expérience réelle de dépaysement. Mais alors que, comme le rappelle Barbara Cassin, le mot nostalgie, inventé en 1688 sur la base du grec nostos, le retour, et algos, la douleur, par le médecin Johannes Hofer pour décrire le mal du pays qu'il observe chez les mercenaires helvétiques de Louis XIV, désigne une affection, au Japon, la notion est plus poétique que pathologique. On trouve son occurrence dès le 8e siècle dans des poèmes du Manyoshu pour évoquer la capitale de Nara abandonnée. L'évocation du Furusato fait partie, comme le dirait Sei Shonagon, des choses qui font battre le cœur. Il active dans le présent un passé révolu et procède d'une forme de voyage imaginaire dans le temps, poétique et créatif. J'ai entendu ce terme pour la première fois après le 11 mars 2011. France Culture avait diffusé une série d'entretiens avec des survivants de la catastrophe. Ils y parlaient de leur Furusato, disparu avec la vague ou rendu inaccessible du fait des radiations, et de leur difficulté à vivre cette disparition. Le Furusato implique la possibilité du retour. Qu'advient-il donc lorsque le retour est impossible? Le Furusato se transforme-t-il alors en pathologie, comme pour ces soldats suisses dont on avait constaté qu'ils ne guérissaient qu'une fois rentrés chez eux? Cette notion poétique était-elle au contraire suffisamment puissante pour continuer de juxtaposer le passé au présent, la fabulation au réel, même lorsque le territoire lui-même, la terre, était irréversiblement perdu? Gaspard m'avait traduit cette nouvelle prise dans laquelle Mutosan avait déplié des nouvelles couches du récit. La région pour laquelle il n'avait pas spécialement d'intérêt au départ et l'activité de ses parents qui lui semblait difficile était comme décortiquée par la catastrophe. Elles perdaient de leur caractère immuable et dans leur vulnérabilité nouvelle acquéraient de la valeur. Mutosan prenait vraisemblablement conscience du fait qu'il s'agissait de constructions fragiles que des liens et un travail humain délicat avaient permis de créer et de faire tenir. La catastrophe faisait pour lui office de révélation, d'une apocalypse au sens étymologique du terme, l'action de découvrir. Loin d'une fin du monde, elle semblait lever le voile sur une réalité rendue invisible par l'habitude. Mais je voulais encore reprendre. Mutosan parlait de la catastrophe comme ayant changé sa façon de voir son pays natal. Avait-il un exemple particulier de quelque chose qui avait radicalement changé pour lui? Mutosan fit un signe de la tête. Oui, il pense à quelque chose. Il se remet en place, attend nos consignes et commence une fois de plus par une minute de silence. Dehors, le chien John, troisième du nom, aboie. Je croise les doigts pour qu'il arrête de traîner sa gamelle de fer blanc devant la maison avant que Mutosan ne reprenne son monologue. Il fait un boucan du diable, John, auquel ne peut s'empêcher de répondre par des cris suraigus le nouveau et fringant petit chien Shiba qu'ont adopté les Ono cette année. Si ça continue, je vais devoir demander à Mutosan de recommencer. Ce serait dommage, car je sens qu'il est vraiment entré dans la construction du récit et j'aime observer sa concentration pendant cette minute qui précède sa parole. Il faut dire qu'ils sont excités, les chiens. Depuis 2 jours que la pluie ne cesse de tomber et que le vent s'est levé. Le typhon arrive, nous avait prévenu ce matin Monsieur Ono. Je n'ai encore jamais vécu un typhon. Je ne sais pas très bien à quoi m'attendre. 2 jours plus tard, pendant la nuit, une alarme anti-inondation réveillera toute la maison, indiquant aux gens de la vallée de partir se réfugier sur les hauteurs. J'apprendrai alors que nous ne sommes pas considérés dans le hameau de Harimichi comme des gens de la vallée. Et je pourrai me rendormir tranquille en essayant de me concentrer sur la chaleur que conserve encore mon corps du bain pris la veille sous les couches d'édredon duveteux superposées par Madame Ono et de tenter d'écarter du fil de ma pensée les images cataclysmiques de courants boueux qui reviennent s'y loger malgré moi. Cette année, le hangar de Monsieur Ono est jonché de pommes de terre. Il nous a donc proposé d'installer notre studio dans l'appartement. Les cultures ont repris. Ces sacs de riz sortent tous indétectables de la machine Food Eye qui contrôle le taux de becquerel contenu dans la nourriture cultivée dans la vallée. Cette année, les gens donnent à nouveau du cœur à l'ouvrage, à tel point que la catastrophe est de moins en moins évoquée. À tel point que nous avons mis plusieurs jours, Sophie et moi, à recoller les morceaux. Quelques jours avant le départ, ma maison en France avait été cambriolée. En plus de mon matériel de tournage, les visiteurs avaient emporté deux disques durs contenant les rushs de mon dernier film sur lequel je venais de passer 2 mois d'été en montage. Il s'agissait des 2 seules sauvegardes que j'avais exceptionnellement rassemblées cette semaine-là pour en vérifier le contenu. Le film, un documentaire, était construit sur la répétition successive d'un récit traumatique, celui d'une femme de 86 ans dont le père avait été tué lorsqu'elle était jeune femme dans ce qui fut appelé la dernière Vendetta Corse. Au fur et à mesure du tournage et des reprises de l'histoire, la femme avait la sensation de ne plus se souvenir. Il lui semblait que l'histoire s'effaçait de sa mémoire. Elle perdait pied. L'image et le récit qu'elle s'était construit et pourtant répété pour elle-même depuis plus de 50 ans vacillaient dans la répétition de son enregistrement devant ma caméra. La vérité fuyait, et voilà qu'à mon tour, je perdais le film. J'étais arrivée à Towa dans cet état de perte et de fatigue, j'avais besoin de récupérer, j'étais impatiente de me reposer, de retrouver monsieur et madame Ono, la grand-mère, le kotatsu, le calme. Tout cela avait accentué ma difficulté à me souvenir des raisons pour lesquelles je venais à Towa et à réaliser que la contamination radioactive était toujours là. Il avait fallu que monsieur Ono nous remontre pour la 4e fois le reportage tourné chez lui l'année qui avait suivi la catastrophe. Le reportage alternait entre didactisme scientifique et magazine incarné, comme disent les producteurs. Dans un reportage incarné, on doit pouvoir se projeter, s'identifier au personnage. Mais alors que le cinéma, depuis le début de son histoire, travaille les questions de projection et d'identification à travers une pensée de l'image et du son, du temps et du mouvement, pour la majorité des productions télévisuelles, incarné revient à évoquer un problème intime appartenant aux gens filmés dans le déroulé du commentaire. Ici, les journalistes avaient décidé, au milieu de cette enquête sur les stratégies des agriculteurs de la région face à la contamination radioactive de leurs terres, de parler de l'enfant que la famille Ono avait adopté juste après la catastrophe. Une petite fille de 1 an que sa mère, originaire de la côte, avait laissée à la famille Ono en adoption provisoire. Le reportage ne mentionnait pas les raisons qui avaient poussé cette maman à laisser son enfant. Peut-être la disparition de son village côtier, emporté par la vague du tsunami. Probablement la contamination radioactive qui avait transformé pour les siècles à venir sa région d'origine en zone de difficile retour. Assurément le bouleversement de sa vie de famille, le décès de certains de ses proches et la dispersion des autres dans la chaotique répartition des populations déplacées à travers le Japon. Toujours est-il que la ferme de Ono avait été choisie pour le caractère stable et rassurant du foyer qu'elle pouvait offrir. La première fois que M. Ono nous avait montré ce programme, je me rappelle avoir été déconcertée par cette idée. Moi qui percevais ce village comme faisant partie de la zone contaminée et qui avait dû justifier auprès de ma famille et de mes amis plus que sceptiques les raisons de ce voyage qu'ils jugeaient imprudent, voire dangereux, je constatais que, vu de la côte du Tohoku, Towa pouvait représenter un lieu de sécurité, un lieu dans lequel un enfant trouverait un refuge, un idéal de Furusato. Et le reportage de terminer par cette séquence, 1 an après, dans laquelle la maman biologique de la petite fille, ayant sans doute retrouvé une situation plus stable, vient récupérer son enfant. Le caméraman zoome sur les larmes de Madame Ono, voyant partir cet enfant qu'elle a élevé comme sa fille depuis plus d'1 an. Le reportage est incarné en effet, mais plus comme un ongle qui fait mal sur les bords. Une douleur sourde et d'autant plus désagréable qu'elle parvient malgré mes résistances à me tirer la larme. Madame Ono me l'a confirmé, l'équipe lui avait juré que cette partie du tournage ne serait pas gardée au montage. De mon côté, je porte une attention particulière à éviter dans mon travail ce recours à une émotion fabriquée par la mise à nu impudique des gens que je filme. Et en l'espèce, le choix de travailler sur la triple catastrophe du Tohoku et sur la nostalgie qui en résulte demande un certain nombre de précautions. C'est une des raisons qui m'a poussée, je crois, à mettre en place un dispositif explicitement artificiel, un espace dans lequel les gens que je filme jouent leur propre rôle, certes, mais prennent part à la construction, maîtrisent une part importante de la mise en scène. Car en dehors des contraintes volontairement rigides du studio sur fond noir, de l'adresse caméra, des silences imposés, je ne m'autorise pas à couper ni à monter dans leur monologue. À l'intérieur de cet espace, ils sont maîtres d'un récit qu'ils peuvent reprendre et construire à plusieurs reprises, et la répétition, j'ai pu le constater, leur permet d'apprivoiser le dispositif et d'acquérir petit à petit une aisance dans l'exercice difficile que je leur demande. Leur permet aussi de me surprendre et de m'embarquer dans leur manière à eux de faire récit. Cela fait maintenant plusieurs minutes que Muto-san a commencé son nouveau récit. Il parle devant moi avec entrain et accompagne ses paroles de gestes précis qui m'aident à suivre le déroulement de l'action. J'ai presque l'impression de comprendre ce qu'il dit. Je perçois la récurrence du mot « inoshishi », le sanglier, m'avait traduit Gaspard, et je reconnais ses gestes. Il a écarté ses mains, son index pointe maintenant son poignet gauche et décrit une ligne le long de son bras jusqu'au bas-ventre. Ses mains miment un débordement à cet endroit de l'estomac et je revois la scène. C'est le petit matin, je suis dans mon village du sud de la Corse, c'est l'été. J'entends du bruit, dehors, sur la placette, des voix d'hommes qui parlent fort et qui s'activent. Je descends, encore un peu prise dans mon sommeil. Mon voisin, Fanfan, et d'autres hommes du village s'affairent autour d'un tas que je n'identifie pas tout de suite. Soudain, ils le soulèvent et le suspendent à la rampe de l'escalier. C'est un gros sanglier, tué le matin même, encore chaud. Le spectacle me dégoûte un peu, mais je suis fascinée. Il est si massif, si fort et si mort. Je monte rapidement, prendre mon appareil photo et je tente de saisir les étapes de leurs actions, leurs gestes, si précisément chorégraphiés pour la circonstance. Je me souviens avoir été surprise quand d'un seul trait de couteau, la peau s'est fendue pour laisser tomber de tout le poids de leur gravité les viscères de la bête dans un seau fumant. Je me souviens avoir pensé à l'origine de ces gestes, à ma grand-mère qui décrivait cette même scène à laquelle elle avait assisté petite sur cette même placette. Je me souviens aussi pêle-mêle du regard incrédule de Fanfan quand je lui ai demandé quelques années plus tard, juste avant mon premier départ pour Towa, s'ils avaient arrêté de manger du sanglier après les retombées radioactives de Tchernobyl sur l'île en 1986. Et c'est de cela, je le devine, que me parle Mutosan, de la chasse aux sangliers radioactifs, qui nous avait-il dit quelques heures plus tôt descendre de plus en plus bas vers les habitations depuis que les villages voisins ont été évacués. De ces sangliers qu'il faut chasser en nombre, qu'on ne peut plus manger, mais qu'il avait tout de même voulu apprendre à dépecer. Comme d'autres habitants, dans ce processus que je leur demande, Mutosan est en train de faire le récit d'un souvenir étrange. Une mémoire qui n'appartient pas seulement au passé, mais qu'il a construite depuis et du fait de la catastrophe, en prévision de sa transmission aux générations futures. Comme si la catastrophe avait fait naître une forme de nostalgie particulière, un furusato futuriste, capable de juxtaposer dans un même présent le passé et son développement imaginaire dans l'avenir. Comme je le comprendrais en approfondissant mes recherches, on ne peut parler de furusato que si on est séparé de sa région natale. Les habitants d'une région qui sont restés vivre sur place ne peuvent pas parler de celle-ci comme de leur furusato. Cette précision m'a permis de mesurer rétrospectivement les difficultés des habitants de Towa à comprendre ma demande. J'avais indiqué aux deux directeurs de la coopérative agricole qui se proposaient d'intercéder pour moi auprès des habitants des participants potentiels que je voulais des récits d'un souvenir lié à leur furusato. Et c'est la raison pour laquelle j'ai obtenu pour commencer des réponses très folkloriques. Les habitants venant chacun avec une part du cliché que représente l'idée de Towa en tant que furusato. Un homme avait joué d'une flûte ancienne, une femme avait raconté un conte traditionnel, d'autres encore avaient décrit les motifs convenus de l'archétype du paysage natal japonais. Les multiples prises de ces récits avaient permis de déconstruire peu à peu les clichés. Elles avaient donné la possibilité à chacune et à chacun de les habiter et de se les approprier de manière personnelle. Mais elles avaient aussi laissé apparaître une pertinence inattendue à ma demande maladroite. La catastrophe, par la rupture spatio-temporelle qu'elle avait induite dans ce territoire, pouvait en quelque sorte remplacer la distance géographique habituellement requise à la nostalgie. Avec la catastrophe, l'inquiétante étrangeté que ressent un exilé de retour sur sa terre natale pourrait donc exister sans départ. La contamination aura déposé sur l'espace familier une texture étrangère, transportant avec elle la possibilité d'une nostalgie. Et je constate au fur et à mesure des récits cet effet de la contamination invisible et imperceptible de la radioactivité sur les souvenirs des habitants de Towa. La nostalgie qui se crée ici n'est plus seulement liée à la perte douloureuse d'un passé révolu. Elle tente de remédier à la disparition de l'avenir. Elle va chercher dans le passé pour l'actualiser au présent, certes, mais dans le même temps, elle fait un saut vers ce que pourrait être le futur. La fabrication de ces récits comprend une part de spéculation, ou comme l'appelle Gilles Deleuze, de fabulation, des « comme-si » qui inventent un monde dans lequel persiste, après la catastrophe, l'espoir du devenir. Mutosan avait ainsi recommencé son récit sous une forme très différente des deux précédents. Il avait entrepris de raconter l'apprentissage d'un geste découvert depuis la catastrophe, du fait d'un changement radical dans la nature de son paysage natal et des relations nouvelles que ce changement avait entraînées entre les êtres qui l'habitent. Il produisait de ce fait un souvenir nouveau, une mémoire toute fraîche, fabriquée pour la circonstance, devant ma caméra, et destinée à être transmise, comme il le disait, aux générations futures. Et si j'ai encore le temps de montrer ces 5 minutes de... Voilà. Et donc je vais lui passer la parole pour vous faire entendre son dernier monologue.
僕は小さな農家レッスンをやっているんですけれども、2011年の東日本大震災を機に、ですね、 まあ、人が住めない地域っていうのはすごく浜通りの方に多くなってしまって、そこで野生の動物がものすごく繁殖したんですけども、その中にイノシシがいまして、まあ、それがどんどん浜の方から僕たちが住んでいる地域にどんどんどんどん増えた数が押し寄せてくるように、この地域もイノシシがすごく増えて、それで畑の作物を食べてしまったりとか、そういったことですごく、まあ、被害が多くなってしまったんですね。そこでまあハンターが、そのイノシシを駆除するんですけども、まあ、それがやはり放射能の影響でイノシシを食べることができないんです、お肉にしても。でまあ今はそのハンターが殺したイノシシっていうのは、まあ、そのまま土に埋めて、その場で処分しているんですけども、まあ、あまりにもそれではもったいないと、まあ、食べられないにしても、僕たち料理人っていうのがそのイノシシを、まあ、丸々一頭解体できる機会っていうのはものすごく少ないので、そこで、まあ、お願いをしてイノシシさばかしてくれとお願いして、まあ、持ってきてもらったんですね。で仲間の料理人を集めて、でみんなでこう解体の勉強というかをしまして、まあ、やったんですけども、まあ、イノシシとにかく体温が高いんで、まあ、いかにそのすぐなんだろう冷ますっていうか、まあ、冷やせるかっていうのがすごい非常に大事なポイントなんですけども、まあ、銃で撃って、まあ、大体ここら辺とか、まあ、胴体とか撃つんですけども、まあ、そこで血抜きをして、そこから、まあ、猟期っていうのは冬なんで、雪で冷やすんですね。で、雪で一晩冷やしたものを、そのまま水を張ったところにイノシシを入れて、冷やしながら血を抜くんです。で、次の日に、それを引き上げて、ロープで、後ろ足を吊るして、で、引き上げる。で、そこで、まあ、水を切って、で、いよいよ、こう、解体していくわけなんですけども、まあ、本当に包丁一本で、皮を剥ぐところから始まって、で、まず、そうですね、後ろ足のこの部分を、まあ、包丁で切り目を入れて、ここからこういうふうに、なんですか、内ももに沿って、包丁を入れていって、で、真ん中の内臓の部分を切りまして、で、本当に内臓を傷つけないようにっていうのがすごい本当に大事で、っていうのも、その、内臓を傷つけてしまって血を出してしまうと、本当にお肉に匂いが移ってしまって、まあ、食べれないんですよね。まあ、もちろんそのイノシシはもともと食べれないんですけども、まあ、それでもやっぱりその食べるお肉の状態にするっていう作業の中で内臓を傷つけるっていうのはすごい、まあ、NG で、でその内臓を傷つけないようにどんどんどんどん剥がしていって、で内臓がこう膜に覆われているんですけども、まあ、そこを剥がしていって、まあ、内臓を出すんですね。でその後にまあ、なんだろう、このベロの部分を、まあ、切って落とすんですけども、この首の後ろの骨のところっては丸くこうジョイントのようになっていて、そこに、まあ、ある角度で包丁を入れていくと、その中の筋が包丁の先で切れて、で骨が外れる、でその後に皮を切るということで、本当に包丁一本で、全てのイノシシを全てのパーツを解体することができます。で、まあ、何が一番勉強になるかっていうと、本当にこの、丸々一頭のイノシシ、まあ、豚も牛も多分、部位のお肉っては変わらなくて、まあ、ここがロース、バラがあって、ロースがあって、まあ、肩ロースがあって、もも肉があって、ここに、まあ、その本当に 内臓にの上側ですね、内側の方にヒレ肉が2本あるっていう構造をが本当に分かって、なんだろう、なんていうんですかね、この、まあ、命、まあ、殺してしまってただ埋めるだけっていう命を、まあ、僕たち本当にそういうふうに学ばせてもらって、で本当でしたら、まあ、料理にまでして、まあ、お客様に提供して食べていただきたいところなんですけども、まあ、それができないというのはすごくもったいないなっていうのは、まあ、震災前に本当にこういうことの大切さに気づいて、まあ、最初からできていなかった、まあ、そういう部分がすごいもったいないだっていうことはものすごく痛感しました。で、そうですね、まだこれからまあ、きっとそれが食べられる時が来るんだなって、そういうふうには信じてて、で、まあ、もちろんそれまでもシェフたちと、まあ、腕を磨いていきたいとは思っているんですけども、まあ、どうにかして本当になんかこのイノシシを、日本人はそんなに習慣的にイノシシを食べるわけではないので、なんとかこう年に1回だけでも食べる機会っていうのがあればなと、今すごく強く思っています。